carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir mon invité, qui est le vice-amiral Jean-Noël Gard, qui est aussi le directeur du Musée national de la Marine depuis 2003, et qui aujourd'hui viendra nous parler non seulement des peintres officiels de la Marine, mais aussi de l'exposition tout à fait intéressante, pour ne pas dire exceptionnelle, qui est présentée en ce moment depuis le 14 octobre au Musée de la Marine, c'est-à-dire Albert Marquet. Et cette exposition durera du 15 octobre 2008 au 2 février 2009. Alors, tout d'abord, un mot sur l'amiral pour le présenter. Et je dois dire qu'il a un parcours, vous avez, amiral, un parcours tout à fait passionnant. Et je précise que vous êtes entré à l'école navale en 1967. Vous ralliez Diego Suarez, donc à Madagascar, en 1970. Vous êtes officier d'un patrouilleur, affecté aussi ensuite à bord de l'escorteur Le Breton à Brest. Bon, pour passer, je vous retrouve breveté officier missilier en 1975. Attention, vous servez sur, pour tous ceux qui sont des patriotes et les amis de la France, le porte-avions Clémenceau, la frégate lance-missile Suffren, la frégate anti-sous-marine Georges Legge et le croiseur Colbert, avec des noms de la France historique, etc. Et puis alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est, je trouve dans votre curriculum vitae, et là vous allez nous en dire un mot, c'est tout à fait votre façon de rebondir, et notamment votre rencontre avec Jean-François Deniau. Dieu sait si c'est un écrivain courageux, un homme de la marine, un personnage, un membre de l'Académie française bien entendu, et je dois dire que le fait que Jean-François Deniau vous ait distingué est quelque chose d'important. J'ajoute avant de vous céder la parole, vous êtes officier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, et de l'ordre souverain de Malte. Amiral, alors cette rencontre avec Jean-François Deniau, dans quelles
circonstances ? C'était assez original, c'est qu'en 1996, se posait la question de l'implantation du musée dit à l'époque des arts premiers, celui qu'on appelle aujourd'hui et qui s'appelle aujourd'hui le musée du Quai Branly. Et à ce moment-là, une des solutions qui avait été envisagée était de retirer le musée de la Marine du palais de Chaillot et d'y implanter dans un musée de l'homme transformé le musée des arts premiers, c'est-à-dire ça aurait été une assimilation du musée de l'homme dans le musée des arts premiers. Et donc, cette orientation était au départ retenue et Jean-François Deniau a été nommé chargé de mission pour étudier les conditions d'un transfert ou d'un déménagement du musée de la Marine. Et la grande question qui se posait à ce moment-là, et j'ai été nommé donc chargé de mission auprès de Jean-François Deniau pour le...
En quelle année?
En 96. Automne 96, septembre 96. Et donc là, la mission de Jean-François Deniau était de chercher un nouveau site d'accueil pour le musée de la Marine. Et c'était à l'époque, c'était assez, c'était quelque chose, une affaire assez effervescente. Et souvenez-vous, il y avait également Éric Tabarly qui se passionnait pour ça, qui voulait pas que on déplace le musée de la Marine. Il estimait que c'était quelque chose d'assez important. Il avait un peu cette définition, enfin celle que j'utilise assez souvent, de dire la France est un pays maritime, les Français ne le savent pas, et la seule chose qui leur permet de comprendre qu'elle est un peu maritime quand on est à Paris, c'est le musée de la Marine. Ne le touchons surtout pas. C'était un peu le raisonnement résumé de Tabarly. Et je le partage complètement.
Et il n'avait pas tort.
Hein. Il a parfaitement raison. Donc, c'était l'idée de Tabarly, c'était ne bougeons pas, restons à Chaillot. L'idée de Jean-François Deniau, c'était surtout sa mission, c'était d'étudier les conditions d'un transfert dans des conditions convenables, de qualité. Et donc, il a fallu travailler sur un certain nombre de sites éventuels possibles. Donc, il y avait d'ailleurs le Quai Branly, bien sûr, parmi ces sites. Il y avait le Grand Palais, il y avait un site à côté de la gare d'Austerlitz, là où se met en place la maison de la mode ou de la haute couture, là, qui est en train de se construire juste à côté d'Austerlitz, le long de la Seine. Donc, on a étudié tout un tas de sites. Et ce que j'avais trouvé passionnant à l'époque, avec Jean-François Deniau, c'est qu'on avait aussi étudié, non pas uniquement des sites pour faire, je dirais, comme un cabinet de déménagement qui étudierait si ça convient, s'il y a assez de mètres carrés. On avait fait aussi tout un travail passionnant sur qu'est-ce qu'un grand musée de la marine? Quel doit-il être? Quelles sont ses fonctions? Quels sont les éléments qu'il faut développer pour être capable d'argumenter et de défendre convenablement un grand musée, définir le site, voir qu'est-ce qui était acceptable ou n'était pas? Autrement dit, c'est ce travail de l'ombre, je dirais, de l'analyse de ce qu'était un grand musée de la marine qui m'a beaucoup intéressé et j'ai découvert à cette époque un musée de la marine, mais dans les coulisses, puisque j'étais, comme tout le monde, visiteur de musée, donc on est dans les salles. On pense à ce moment-là, quand on voit, visite les salles d'un musée, quelle que soit la beauté des salles, des collections, des expositions qu'on voit, ça fait très calme.
Vous l'aviez découvert à quel âge, le musée de la marine?
Oh, petit, je ne sais pas à quel âge.
Oui, comme
je
ne
suis pas capable de vous dire, j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans,
tout
je pense.
Tout à fait.
Et c'était un des endroits de Paris où j'aimais bien aller, parce que c'était un peu le rêve, le voyage, enfin, c'était un peu l'aventure.
Et c'est vrai qu'il y avait un petit, avec les années, un côté un petit peu poussiéreux, peut-être.
Un petit peu vieillot, c'est ça. Tous les musées ont vieilli à un certain moment, puisqu'on était des musées un peu dans l'héritage des musées du 19e siècle, qui était la création des musées, parce que ça a été créé sous la Révolution, les musées
de
Louvre, c'est qu'à 1793. Et donc, le musée de la Marine, dans sa version actuelle, on pourrait dire, a été créé en 1827 au Louvre.
Ah oui,
donc c'est quand même un des vieux musées en France.
Ça date.
Sachant que les collections, elles, sont de 1748. Donc, on était un peu dans cet esprit-là. Et puis, j'allais dire que sans qu'il y ait la moindre méchanceté dans ce que je dis vis-à-vis de mes lointains prédécesseurs, c'était on se débrouillait pas mal. C'est-à-dire, je veux dire, il y avait des tas d'éléments qui n'étaient pas encore très professionnalisés.
Ah oui.
Il y avait beaucoup de marins qui aidaient, mais c'était un beau musée très sympathique, plein d'âme.
Côté plein de, oui, c'est ça, plein de rêves,
plein d'aventures. Ce qui manque parfois peut-être, ou ce qu'on nous reproche de temps en temps aujourd'hui, où nous sommes plus devenus comme les autres, un musée de France, musée national et autres, qui parfois peuvent paraître un peu aseptisés à certains visiteurs. Donc il faut faire attention.
C'est vrai que
on travaille là-dessus.
C'est vrai, amiral, et ce côté humaniste ne devrait jamais trop s'échapper de nos grands lieux. Ça, c'est important. Alors, juste avant que nous continuions évidemment ensemble, je me permets, ce qui nous réunit aujourd'hui aussi, c'est bien entendu le fait qu'il y ait cette très belle exposition sur Albert Marquet, et je signale le livre publié par les éditions Thalia pour l'occasion, Albert Marquet, itinéraire maritime. Je le conseille, je l'ai sous les yeux. C'est un livre vraiment qui est une vraie splendeur. Il s'intéresse à toutes les côtes françaises, européennes, méditerranéennes, à l'heure de l'euro-méditerranée, c'est très important. Je souligne aussi le tiré à part de Connaissances, de la revue Connaissances des Arts, qui paraît-il est très bien. Et j'ai aussi sous les yeux la Gazette de Drouot, où il y a plusieurs articles, deux articles, si je ne m'abuse, sur Albert Marquet, qui sont d'ailleurs fort intéressants, article un peu imaginé et tout à fait passionnant. Alors, juste un mot, nous parlions de rêves, j'ai été très frappé, amiral, par le personnage, la personnalité d'Albert Marquet. Et je vais surtout pas prendre trop la parole, juste dire deux mots en disant ce qui est très beau chez lui, je trouve, c'est le dépassement de soi. Et n'oublions pas cet enfant qui est né dans un milieu tout à fait pauvre, et l'enfant boiteux et myope qui était un peu ridiculisé par ses condisciples, etc. Et quel parcours pour ce garçon très discret, timide, finalement, etc., tranquille, et qui fait une œuvre, justement, cette tranquillité, on la retrouve là-dedans. Alors pourquoi, et ça sera ma première question avant de vous demander vraiment ce que c'est qu'un peintre officiel de la marine, pourquoi Albert Marquet au musée de la marine, amiral ?
Albert Marquet, c'est le peintre de l'eau. Quand vous regardez dans son œuvre, il y a énormément d'eau. Alors, très souvent la mer, parfois la Seine. Il y a une très belle exposition, il y a 4 ans d'ailleurs, à Carnavalet, sur Marquet et la Seine, qui d'ailleurs m'a définitivement ancré dans l'idée qu'il fallait faire au Musée de la Marine une exposition sur Marquet et la mer. Et en fait, nous avons fait ce travail avec Véronique Alemany, qui est commissaire de l'exposition, sur les itinéraires maritimes d'Albert Marquet, qui a été vraiment profondément imprégné, profondément, j'allais dire, marqué par la mer qui l'a entouré. Il est né à Bordeaux, il a été très souvent au bord de la mer, et en fait, toute sa vie, il a voyagé, comme vous disiez, il a fait tout un voyage qui lui a permis, avec une grande sérénité, de rendre compte de ce qu'il voyait. Et à la fin de sa vie, en 45, il est né en 1875, en 45, on lui a proposé 3 honneurs. On lui avait proposé à l'époque 3 honneurs, enfin, on l'avait sollicité, et c'est assez amusant de le dire ici. On lui avait proposé la Légion d'honneur, en lui proposant un dossier. On lui avait proposé d'être nommé à l'Académie, à l'Institut, a priori des Beaux-Arts, j'imagine.
Ce qui n'est pas rien.
Et d'être nommé peintre de la marine. Le seul pour lequel il est accepté, c'est d'être peintre officiel de la marine.
Ah oui, donc.
Il est devenu peintre officiel de la marine. Et en fait, pourquoi? Parce que il considérait que son œuvre était profondément maritime. Et donc, c'était assez logique. C'était l'honneur qui lui collait le mieux. qui lui convenait le mieux. Et donc, c'est pour cette raison qu'il me paraissait intéressant de faire une grande exposition sur Marquet et la mer. En fait, c'est Marquet et la mer dans les collections françaises, collections publiques et collections privées.
Ah oui, tout à fait. Et les collections, justement, d'Albert Marquet, sont-elles plus en France ou y en a-t-il aussi beaucoup à l'étranger ?
Il y en a à l'étranger, mais pour des raisons d'organisation et puis parce qu'il y avait une matière extraordinaire, on s'est cantonné, si je peux dire, mais ce n'est pas du tout restrictif. Non, on a une exposition qui est absolument magnifique. On s'est cantonné aux collections françaises avec d'un côté le musée national d'art moderne, donc Centre Pompidou, qui lui a hérité de la donation Besson, qui était le critique d'art qui a fait sa donation en 1963, qui est une collection Marquet extraordinaire, que lui-même, maintenant, Pompidou, a réparti dans beaucoup de musées de province, et auxquels on a emprunté ses tableaux. Et l'autre collection, c'est Bordeaux.
Oui.
Et
oui.
Alors, la grande caractéristique de notre exposition, et c'est pour ça qu'elle devrait faire plaisir à nombre d'amateurs de Marquet et de peintres de ce genre, c'est que la moitié des œuvres présentées viennent de collections particulières.
Ah oui,
et
ça,
dont
c'est
nombre
très
d'entre
important.
Elles n'ont jamais été montrées au public.
Ah oui, donc.
Tout à fait inédit. Et en particulier aussi, on a développé un cabinet des arts graphiques dans lequel on présente à foison, on pourrait dire, une centaine d'œuvres graphiques, dessins, aquarelles.
Ah, qui sont très belles.
La vie et autres qui sont vraiment très belles et très,
très touchantes. Oui. Très touchantes, familières.
Oui.
Familières.
Et on les a présentées un peu dans l'esprit du 19e, vous savez, où les œuvres étaient superposées, très serrées, une présentation très serrée, qui vous donne une impression d'abondance extraordinaire, mais qui permet de bien s'imprégner du travail de Marquet dans ce domaine-là. Et où on retrouve alors là toute sa spontanéité.
C'est vrai que c'est très luxuriant, votre présentation. J'y étais bien sûr mardi à l'expo, à l'ouverture. Et j'ai trouvé extrêmement frappant, je veux dire, ça vous interpelle, les azuleros.
Ah oui.
C'est-à-dire, j'ai trouvé que c'est vraiment, les couleurs sont magnifiques. On dirait presque, est-ce que je me trompe, on dirait presque du Delphes.
En fait, ce sont des céramiques qu'il a peintes selon le processus des azuleros, donc qu'il aimait beaucoup. Et alors, il y a effectivement une certaine dominante bleue dans son
ah,
trait
voilà,
qu'il a choisi,
ça,
qu'il a retenu. Et il a, c'est assez original, dans son appartement à Paris, il avait décoré sa salle de bain avec des carreaux sur lesquels il avait reproduit, enfin tout au moins retravaillé, des petits Marquets. Autrement dit, il y a des tas de carreaux qui sont chacun un petit tableau de Marquet et qui décoraient sa salle de bain. Et après sa mort, quand Marcel Marquet, son épouse, a dû quitter son appartement, elle les a vendus. Et il y a des collectionneurs qui les ont récupérés. Et là, l'un d'entre eux nous a prêté trois panneaux assez importants où on voit plusieurs dizaines de carreaux de céramique peints par Marquet. Et chacun d'eux, c'est un petit Marquet.
C'est unique, hein. Vraiment, c'est
très frappant.
Et puis, avec les azuleros, les petits croquis, les grands tableaux, vous avez vraiment c'est une exposition, je trouve, très intime, vaste et intime à la fois. C'est assez curieux de... Les œuvres de Marquet se trouvent principalement dans quel musée de France ?
Bordeaux, qui a une collection alors qui a été donnée par Marcel Marquet, qui était donc l'épouse de Marquet, qui a et c'est la famille, les sources, la famille Marquet était là-bas, et donc elle a fait une donation tout à fait importante à Bordeaux,
très
avec
bien.
Des tableaux magnifiques. Et puis donc l'autre donation, qui est la donation Besson, qui est au musée national d'art moderne, et
donc
qui
Pompidou.
Est le Pompidou, et qui est, ce sont les deux centres. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans d'autres musées, mais les deux grandes collections publiques sont là.
Il y en a, ça m'a frappé, il y en a, je crois, il y a quelques marqués, deux ou trois peut-être, ou peut-être un peu plus, au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez.
À Saint-Tropez, oui.
Et j'ai été très frappé en ouvrant ce très beau livre, je le rappelle, Albert Marquet, Itinéraire maritime aux éditions Thalia, de voir que vous avez un tableau de la Ponche, c'est-à-dire du port des pêcheurs de Saint-Tropez en 1905. Étant marseillais par ma mère, j'ai eu l'occasion de découvrir Saint-Tropez dans les années 50, enfant. C'est le tableau de 1905, on a l'impression d'être là en 1950, donc en 50 ans, d'une exactitude, rien n'a bougé, c'est assez stupéfiant. Je veux dire, c'est une expérience personnelle, si vous voulez, etc.
Mais on peut y retrouver pas mal d'endroits, et en plus, on a souhaité dans les cartels de signaler où était l'endroit pour que le visiteur, comme il y a énormément de voyages de Marquet, on a mis des cartes, et sur chaque cartel, on arrive à situer l'endroit qui est peint, ce qui permet à chacun de retrouver des souvenirs. Et comme vous dites, et ce qui est assez frappant, c'est qu'on retrouve l'endroit que l'on connaît,
c'est vrai.
Pourtant, quand vous regardez le dépouillement d'un tableau de Marquet, c'est un peintre minimaliste, il met extrêmement peu d'indications l'animation.
Pas de personnages.
Très peu de personnages, extrêmement peu de personnages. Même quand il dessine un port où il y a une activité grouillante, il arrive à simplifier au maximum. Il y a, bon, il y a les remorqueurs, mais s'il y a un remorqueur en train de remorquer, il n'y a pas la remorque. Si sur le quai, il y a des grues, il y a un tas de choses, il a simplifié, il a mis quelques personnages. Et à chaque fois, c'est cette simplification qui est extraordinaire, mais qui fait qu'on retrouve quand même, on reconnaît.
J'ai été très frappé en parcourant ce beau livre, et en regardant bien entendu de près l'exposition, de voir les personnages sont comme effacés, comme tout en étant un peu présent, mais un peu absent. C'est ce qui est important pour lui, c'est la mer, le ciel, le cadrage.
La lumière et les couleurs. C'est un peintre de la lumière, un peintre des couleurs, et c'est pour ça qu'il a été passionné par la mer, qu'il connaissait dès son enfance. Il aimait la vie. Il aimait ce qui bouge, donc il aimait les ports. Parce que le port, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Moi, je l'ai pratiqué toute ma vie. C'est un endroit tout à fait fascinant.
Nous allons, si vous me permettez, y revenir dans un petit instant sur les ports et la lumière et les couleurs. Donc, nous allons revenir dans un instant, bien entendu.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans cette deuxième partie de notre émission l'amiral, le vice-amiral Jean-Noël Gard, qui est le directeur du Musée national de la Marine. Et avec lui, il évoque, bien entendu, nous entretenons, il évoque ce peintre officiel de la Marine qui s'appelle Albert Marquet. Et nous avons, bien entendu, ce très joli livre que j'ai sous les yeux. Il s'appelle Albert Marquet, itinéraire maritime, aux éditions Thalia. Je vous conseille d'aller voir, et ça m'est tout à fait personnel, ce peintre tout à fait important. Alors, nous disions, amiral, que ce qui est formidable chez Albert Marquet, c'est vraiment le peintre des ports, port que vous connaissez bien, homme de la lumière, de la couleur, un coloriste, et ne l'oublions pas, ami de Matisse.
Ami de Matisse, ils ont été ensemble quand ils étaient aux Beaux-Arts, aux Arts Déco, puis aux Beaux-Arts. Ils se sont rencontrés là et ils ont été dans les mêmes ateliers. Et ça a été vraiment des amis. Et ça a été jusqu'au moment où ils ont exposé ensemble à la période fauve en 1905. Ah. Il était avec Camoin, Manguin et d'autres. Et ça a été toute sa vie un ami de Matisse. Et d'ailleurs, la photographie, le portrait de Marquet qu'on a choisi pour le présenter sur l'affiche de l'exposition, en fait, c'est un découpage d'une photographie où il est à côté de Matisse.
Ah,
donc c'est toute sa vie, Matisse a été un grand ami pour lui, ils se sont énormément appréciés.
Il lui donnait confiance en lui, j'ai l'impression.
Oui, et puis ils appréciaient leur liberté d'approche de la peinture, leurs expressions et autres. Ils ont connu la période fauve un peu en commun. Matisse était un fauve moins violent que les autres. Ses peintures, ses couleurs n'ont jamais été aussi violentes que les couleurs pures, complètement pures des fauves. Mais on retrouve quand même une grande communauté et c'était une bande d'amis, on pourrait dire, qui s'appréciaient beaucoup.
Écoutez, alors, nous parlions des ports. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce dessin, dans cette œuvre portuaire de Albert Marquet ?
Alors, il aime beaucoup la géométrie. Quand vous regardez dans ces constructions, il y a énormément de traits d'horizontal, de diagonale. On sait qu'il
est cubiste, alors Marquet ?
Non, mais aimant bien les perspectives, aimant bien la profondeur, la diagonale y aide. Ouais, et quand vous regardez bien, il y a souvent une digue, souvent... Alors, c'est conseillé en peinture, c'est connu. Je ne dirais pas que c'est un truc ou un tic, mais lui, il l'a utilisé avec une grande habileté. Et les ports qui étaient foisonnants de ces traits horizontaux, avec les quais ou de ces diagonales avec les digues, de ces verticales avec les grues, il adorait ça. Ah, et puis, il y mettait un certain nombre de bateaux qui passaient rapidement. Et vous avez dans les ports de Hambourg, d'Amsterdam, les ports du Nord qu'il a peint à partir des années 1908, 9, 10, où il a découvert, alors c'est là où il a un peu abandonné ses couleurs fauves assez pures et dures pour être plus pastel ou plus nuancé, travailler à travers la brume. Il a beaucoup peint à travers la brume. Et dans ces ports du Nord, on voit ce foisonnement de bateaux. En revanche, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on voit très peu de personnages, parfois des quais complètement vides, alors qu'il s'y passait une activité importante. C'est un peintre minimaliste, il simplifie à l'extrême, mais gardait l'essentiel.
Et pourquoi pouvait-il sacrifier les personnages? Est-ce que c'est dû à Okuzai? Oh non, parce que Okuzai dessine les personnages. Est-ce qu'il y a vraiment une influence d'Okuzai sur
alors,
le Marquet?
Il connaissait le travail d'Okuzai qui était important. Là où je trouve qu'on le retrouve le plus, c'est dans les aquarelles. Les aquarelles, il les a commencées un petit peu plus tard. Il a commencé les aquarelles dans les années 20. Avant, il dessinait à l'encre de Chine, au fusain, crayon et autres. Et puis, il s'est mis à l'aquarelle en complément, bien sûr, de son travail à l'huile, qui était le travail, on pourrait dire, fondamental. Il a commencé l'aquarelle vers les années 20-25. Il avait presque 50 ans. Ah, oui. Et là, il connaissait très bien le travail des Japonais. Et certaines aquarelles, on a des vues de Collioure qui pour moi, pourraient très bien être signées Okuzai. C'est assez étonnant.
Des vues de Collioure. Hein,
vues de Collioure, oui, oui. Oui, c'est assez impressionnant. Et alors ça, on les retrouve, on en retrouve une, d'ailleurs, qui est à peu près identique dans les céramiques. On le retrouve aussi, alors, dans des huiles. Et on retrouve des constructions un peu japonaises. Alors, qui, quand même, sont assez simplifiées en termes de personnages.
Ah, oui.
Mais
oui,
le personnage, oui. Il le mettait quand il estimait que c'était important pour indiquer une présence, mais il ne ressentait absolument pas besoin de mettre la foule.
Et comment vous expliquez ça? Cette peur de la foule ou est-ce qu'il y a
C'était un homme solitaire lui-même.
Oui, oui, oui.
C'était un homme solitaire, discret, effacé, qui se mettait d'ailleurs, quand on observe les tableaux, presque toujours en surplomb.
Oui, d'une et fenêtre. Jamais dans la foule.
Il n'est pas dans la foule.
Non, jamais.
C'est un peintre sur le motif. Ouais. Donc il était vraiment sur place quand il peignait. Il était dans un appartement, une fenêtre.
Il était caché.
Et donc, peut-être qu'au fond, le personnage, il n'en avait pas trop besoin. En revanche, les personnages, vous les retrouvez dans ses croquis. Dans tous les petits croquis, vous voyez qu'avec un trait, il arrive à faire un personnage, lui donner une attitude, avec trois fois rien. Et ça a été un exercice qu'il a fait d'ailleurs avec Matisse. C'est Gustave Moreau, qui était leur patron d'atelier, qui leur a dit, allez dans la rue. Et ils y sont allés, et Matisse reconnaissait, comme Marquet, que le travail dans la rue a apprendre strictement l'essentiel pour arriver à exprimer un mouvement, exprimer une attitude, c'était un exercice permanent et qu'il fallait faire tout le temps. Et on pourrait dire qu'il s'est entraîné toute sa vie à savoir prendre l'essentiel dans un dessin extrêmement simple.
Ça, c'est
important. Et ça, on le voit très bien quand on voit l'ensemble des dessins qu'on présente. On voit très bien tous ces petits dessins très simples. Certains peuvent paraître un petit trait de crayon. Mais regardez bien, c'est un personnage.
Parce que c'est très, très intéressant ce que vous dites, amiral, et d'autant plus touchant. L'influence de Gustave Moreau, si je ne m'abuse, n'étant pas un spécialiste, mais il y avait comme une influence assez du fantastique.
Oui.
Est-ce qu'on la retrouve, cette influence un peu
peu.
Du fantastique?
Non, peu parce que Marquet. Marquet, c'est le peintre du réel, ce qu'il voit, et qu'il traduit...
Qu'il transforme.
Qu'il simplifie à l'extrême.
Ah, oui,
donc
oui.
Je disais, c'est le minimaliste, il garde l'essentiel.
C'est important ça, minimaliste.
Et la couleur.
La couleur
et la lumière. C'était un peintre de la lumière.
Vous êtes plutôt, pour choix personnel, plutôt pour les peintures nordiques ou les peintures méditerranéennes? Est-ce que... Les deux, ou est-ce qu'il y a des choix que vous... Et par exemple, une question encore plus précise, parce que cela est un peu général, le port qui vous semble, ou l'un des ports qui vous semble les plus, vraiment, qui vous saute aux yeux par la réalité de ce port, lequel est-il pour vous?
Alors, pour ceux qui seraient peut-être le plus descriptif, il y a le port du Havre, et puis il me semble que c'est Boulogne aussi.
Ah, oui.
Les ports du Nord sont tout à fait intéressants, et c'est un travail où là, il travaille dans des camaïeux avec des teintes extrêmement peu nombreuses. Et il arrive à faire des tableaux, on pourrait dire, pour simplifier, en couleur, avec très peu de couleurs.
Et puis,
alors, vous avez d'autres ports où il a beaucoup travaillé, c'est Alger. Vous avez des vues du port d'Alger qui sont extraordinaires. Et là, on retrouve des couleurs plus méditerranéennes, plus chatoyantes, plus gaies. Mais il aimait énormément l'Algérie, il a beaucoup travaillé.
Vous connaissez vous-même le port.
J'ai vu le port d'Alger, et là, on retrouve des couleurs extraordinaires.
Donc vous seriez plus, vous pensez qu'il y a plus de fidélité, fidélité artistique, inventive pour Alger que par exemple pour Marseille où c'est...
Vous avez La Rochelle qui est extraordinaire, vous avez des vues extrêmement simplifiées de La Rochelle, vous savez que vous êtes à La Rochelle et nulle part ailleurs. J'aime bien les vues de port, de toute façon, d'une manière générale. Donc, je les classerai pas. Je les aime toutes pour des raisons différentes. Vous avez certains ports qui ont des couleurs assez fortes parce que vous avez le petit port à côté de Saint-Tropez qui est des couleurs quand même assez vives. On est dans des couleurs à la limite du fauve. Et puis, vous avez les ports du Nord qui sont au contraire avec très peu de couleurs, uniquement des nuances dans les ocres sombres et les terres, etc., qui sont formidables.
Et c'est là où on voit son talent. C'est justement les couleurs. Les couleurs du Nord, les couleurs du Sud, finalement, il s'adapte bien, il saisit bien.
Et le centre de son œuvre, c'est toujours la mer. dans les tableaux qu'on présente, c'est vraiment, on pourrait dire l'acteur principal, si on était au théâtre, c'est la mère. Et en fait, il faut bien regarder que tous les éléments, toutes les indications qu'il donne autour servent à valoriser les reflets, les couleurs et la lumière de la mer.
Et vous, marin, vous... Vous y sentez bien,
oui.
Vous la reconnaissez.
Ah oui, oui, on reconnaît bien la mer. Alors, il est amusant d'ailleurs, parce qu'il simplifie aussi beaucoup. Quand il veut indiquer la tempête, il peint pas des vagues énormes. Les vagues qui viennent se briser sur la plage, elles, sont un petit peu plus violentes que les autres, mais au fond, il se complique pas. La mer, il travaille sur les couleurs de la mer, il y met pas plein de vagues.
Elle frémit.
En revanche, il charge le ciel.
Ah,
et c'est une indication de mauvais temps.
Ah,
donc
oui,
c'est tout un jeu où l'indication du mauvais temps se fait par quelques vagues au bord et par un ciel très chargé, mais la mer, elle, retrouve des couleurs intéressantes, des reflets qu'on voit effectivement dans la
donc
réalité.
Donc elle est finalement jamais tellement hostile.
Non, elle est calme. J'allais dire, elle est calme, même quand il fait mauvais.
Alors, nous arrivons, je pense, à un des derniers points de cet entretien, mais qui se poursuivra dans d'autres domaines, comme vous le savez. Pourquoi est-il peintre officiel de la marine? Et qu'est-ce que c'est qu'un peintre officiel de la marine?
Alors, un peintre officiel de la marine, ça a été créé en 1830 par une volonté royale à l'époque. Et en fait, ce sont les héritiers des peintres qui, sous Richelieu, donc il y avait la Vignon, Callot, Puget, qui ont peint à la demande de Richelieu, donc et du roi. Et c'était la peinture des ports qui commençait. On a connu sous Louis XV la peinture des ports de France par Joseph Ernest, celle qu'on présente au musée,
qui
est une commande royale extraordinaire. Et puis, on a vu arriver en 1817, on a eu Garneret qui a été nommé au titre extraordinaire de peintre des marines du grand amiral de France. C'était un renouveau. C'était
1817.
Mais la création et l'inscription sur l'annuaire des officiers de marine des peintres de la marine, les deux premiers y ont été en 1830, Gudin et Crépin. Ah. Et on a d'ailleurs des tableaux de musée. Et alors là, ça a été le démarrage de ce corps des peintres de la marine. Et depuis, ça a continué lentement au début et puis après, ça a cru. Et aujourd'hui, ce corps existe est toujours vivante. Ça s'appelle, en toute rigueur, peintre officiel des armées, spécialité marine.
Oui,
mais en fait, on
oui.
les appelle les peintres officiels de la marine.
Et
alors, ce sont des artistes peintres, qui peuvent être artistes peintres. Il y a quelques photographes, il y a des graveurs, il y a des sculpteurs, et qui
est-ce qu'il y a des militaires aussi?
Alors il y a dedans, il y a un militaire qui est, enfin un ancien militaire, l'amiral Bellec, un de mes prédécesseurs, qui est peintre de la marine. Et il y a eu Luc Maribel qui a été aussi un de mes autres prédécesseurs, qui était officier de marine. On en a eu un autre il y a quelques temps qui a disparu malheureusement depuis. On n'est pas nécessairement militaire, loin de là. Il y en
voilà.
a très peu,
voilà, oui.
Et vous y trouvez des personnages aussi connus que Ziem, que Signac. Vous y trouvez
Signac
a été peintre de la marine. Oui. Vous y trouvez Marquet, Lapic, Hambourg, Mathurin Méheux. Enfin, je vous cite quelques noms comme ça. Pompon, le sculpteur. Donc, qui pour différentes raisons sont devenus peintres de la marine, mais globalement, ça a toujours été cet amour ou intérêt dans leur œuvre de peindre la mer de manière assez forte à un moment donné, ou tout au moins pendant une période significative, sans pour autant ne peindre que la mer.
Ce ne sont pas comme
les marinistes anglais, italiens, qui eux, quand ils sont marinistes, ne peignent que la mer. Donc ce sont des artistes qui sont intéressés par les sujets maritimes, en général, qui se présentent devant un jury qui se réunit à peu près tous les 2 ans, et qui propose à partir d'études de dossiers la nomination de tel ou tel comme peintre de la marine. Et à ce moment-là, ils appliquent selon un décret. Ils sont nommés pour des durées plus ou moins longues, enfin 3 ans renouvelables, puis après à vie, je dirais. Et la seule obligation qu'ils aient, c'est de présenter une œuvre au salon de la marine, donc tous les 2 ans. Et c'est absolument la seule qu'ils aient. Et ils ont en revanche une possibilité, c'est d'embarquer assez facilement sur les bateaux de la marine nationale.
Ah oui, donc c'est quand même, ça leur permet de voyager. Alors, aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait 17 titulaires, peintres officiels de la marine, et 22...
Oui,
en fait, peintres officiels, mais qui ne sont pas titularisés.
On a dans les peintres ceux qui sont nommés pour une période donnée, qui est une période de 3 ans renouvelable un certain temps, et ils doivent être au maximum 20. Et après, arriver à un certain moment ou une certaine durée ou un certain âge, ils deviennent peintres titulaires. Et là, ils deviennent peintres à vie. En moyenne, globalement, il y a une quarantaine de peintres en tout. Et il y a au maximum 20 peintres agréés qui sont donc agréés pour une durée limitée au départ.
Oui, d'accord.
Mais normalement, quand quand on est peintre agréé, qu'on aime suffisamment ce qu'on fait, on devient à terme peintre titulaire. Petite. Donc c'est une quarantaine de peintres.
Et dans l'ensemble, les choix sont... Il doit y avoir une variété quand même assez étonnante de parmi
ces œuvres. Il faut qu'il y ait une variété. Il ne faut surtout pas qu'il y ait que des peintres d'un standard donné. Il y en a qui sont hyper réalistes, il y en a qui sont très classiques, il y en a qu'on pourrait qualifier d'impressionnistes. Bon, il y a plusieurs photographes.
Est-ce qu'il y a un salon régulièrement?
Tous les deux ans, on a un salon de la marine dans lequel, à la fois, on expose une œuvre de chacun des peintres de la marine actuellement déjà nommés, et puis on expose également des tableaux d'artistes ou artistes amateurs, parce qu'il y a des artistes confirmés ou des artistes amateurs, qui acceptent de passer devant un jury, on choisit une œuvre et on montre ça. Donc c'est un salon mixte, on pourrait dire, où il y a à la fois peintres et peintres amateurs, et puis les peintres de la marine.
Ah d'accord.
Et on évoque parfois un de leurs grands anciens. On a évoqué Brenet il y a quelque temps, on avait évoqué Mathurin Méheux il y a 4-5 ans. On peut évoquer l'un des anciens.
Et on peut être d'origine tout à fait étrangère, mais de nationalité française, bien entendu être peintre de la marine. Donc
tout à fait.
Donc c'est vraiment ouvert au plus grand nombre, etc., etc. Écoutez, tout ça est très prometteur. Et vous avez actuellement, alors le prochain salon des peintres de la marine se tiendra quand?
Fin 2009. Il se tiendra à l'automne 2009, dans la période novembre-décembre. Les dates sont, je crois que ça commence fin octobre et ça finira début janvier.
Et toujours au musée de la marine.
Au musée de la marine, oui.
Alors, disons que nous en arrivons un peu à la fin de cet entretien. Nous le reprendrons avec d'autres peintres officiels de la marine. Il est évident que s'il y a quelques éléments voulaient. Je rappelle tout de même ce personnage. J'ai relevé quelques citations dans le livre, je pense. Alors je rappelle ce très beau livre préparé par les éditions Thalia, Albert Marquet, itinéraire maritime. Et vraiment, c'est un enchantement que d'aller de la mer du Nord, bien sûr les pays scandinaves d'abord, en redescendant vers la côte basque, sans oublier la Bretagne, Bordeaux bien entendu, puis la Méditerranée. Et alors j'ai relevé ces quelques citations, si vous me permettez. Amiral, ce sont des citations de Marquet. Je ne m'attache qu'à ce que je sens d'authentique. Donc, c'est quand même des belles phrases qu'il faut rappeler. Je ne suis pas fait pour me procurer des avantages, mais simplement pour capter de la vie tout ce que je peux. Ce sont de belles phrases. Et j'ajouterai, je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Et vous le disiez tout à l'heure dans la première partie de notre entretien, je n'aime que la lumière.
Oui.
Et ça, je crois que ça pourrait être nos quelques éléments de conclusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ?
Complètement, oui. C'est le peintre de la lumière. Peintre de la mer parce qu'il a énormément peint la mer. En gros, ce que je pense de lui, c'est qu'il a toujours vécu vue sur mer. Et quand il n'avait pas vue sur mer, il dominait la Seine à Paris. Et il avait des vues à proximité de Notre-Dame et autres. Donc c'est vraiment le peintre de l'eau et le peintre de la lumière.
Et c'est vrai parce que, en relisant aussi quelques passages... On le voit dans le goût du voyage, et c'est assez extraordinaire. Son premier amour, c'est la Seine. Et un vrai fleuve. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens, vous en connaissez, pour eux, la Loire, c'est un divin, etc. Mais lui, au contraire, il trouve que c'est un fleuve pour convalescents, si vous voulez, etc. Il le dit carrément, alors que la Loire est souvent si chantée. Et alors, la beauté. Et alors aussi, j'ai remarqué, étant, comme vous le savez, marseillais par ma mère, il a beaucoup aimé Marseille parce que il ajoute la misère des maisons rend exaltante la beauté du Vieux-Port. Et c'est vrai que je me souviens du Marseille du Vieux-Port des années 50, il y avait une magie de si j'ose dire, je ne sais pas si on peut dire, je n'ose pas le dire, mais une sorte de magie de la misère, mais on ne peut pas dire cela, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très poignant dans le décor qui était là. Et j'ajouterais, nous parlions tout à l'heure d'Alger, et il trouvait, il le dit carrément, en Algérie, tout était trop parfait. Et c'est assez curieux quand on pense à ce monde des colonies, où justement, en France, il voit des décors souvent un peu malades, fatigués, dans certains lieux évidemment, alors que l'Algérie, pays colonial donc neuf, il le trouve ça trop parfait, ça le gêne presque un peu. C'est intéressant nous mène évidemment à d'autres sujets, mais aujourd'hui, nous n'allons pas les aborder. Le mot de la fin est à vous, amiral.
Je crois que c'est une belle exposition où on offre donc à peu près 200 œuvres de Marquet pour un peu plus de 3 mois et demi. Et je pense que c'est une occasion extraordinaire de voir un peu tout le travail qu'a pu faire cet artiste sur la mer, sur la lumière, et avec en particulier la chance de pouvoir regarder des toiles ou des dessins ou des aquarelles qui sont sortis pour quelques temps seulement de collections particulières et qui vont y retourner.
Chers auditeurs de l'étranger, de la France, vous êtes nombreux. Comme vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant, je ne parle que de choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Albert Marquet, pour moi, est un grand peintre. Il faut absolument, si vous avez l'occasion de venir à Paris ou d'être parisien, il faut absolument aller voir cette magnifique exposition Albert Marquet, qui est un enchantement à la fois européenne et euro-méditerranéenne. Je souligne une dernière fois ce livre que j'ai sous les yeux qui m'éblouit, je dois dire, et qui, je crois, éblouit tout à fait l'amiral, le directeur du musée, évidemment, de la Marine à Paris. C'est Albert Marquet, Itinéraire maritime, aux éditions Thalia. Je vous remercie et je vous remercie infiniment, amiral, d'être venu jusqu'à nous, ici au Quai Conti, pour nous parler d'Albert Marquet la prochaine fois que nous aurons le plaisir de vous recevoir.
À bientôt.
Au revoir.